RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Je vous propose jusqu'à 11h de découvrir l'art de l'iconographie qui est très présente dans l'église orthodoxe, qui a établi un ensemble de règles à respecter lors de la représentation des saints ou des personnages bibliques. Nos invités vont le dire mieux que moi, j'en suis sûr, on va les accueillir dans un instant. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous êtes orthodoxe, quel regard portez-vous sur l'iconographie? Est-ce que c'est important pour vous, pour votre foi? Et bien sûr, la question est ouverte à tous. Est-ce que vous aimez regarder des icônes? Est-ce qu'il y en a qui vous touchent particulièrement? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et je vous présente nos deux invités jusqu'à 11h. Je commence avec vous, Pierre Zoran Petrel. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 11h. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. Vous êtes diacre orthodoxe au sein de l'église Notre-Dame Souveraine et Saint-Silouane. C'est à Chaville, dans les Hauts-de-Seine. Si vous êtes avec nous ce matin, c'est aussi parce que vous êtes artiste plasticien, vous êtes iconographe et théologien. Alors, on va tout de suite poser le décor, si ça vous dérange pas. Qu'est-ce que c'est l'iconographie, Pierre Zoran?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, enfin, l'iconographie, c'est un moyen d'expression, disons plastique, mais au départ, en fait, on a ce phénomène de montrer, enfin plutôt de représenter,
oui,
pas présenter mais représenter, attention, les images sacrées, les images bibliques, les témoignages bibliques. Donc iconographie, donc justement, bon, certains s'opposent farouchement au terme de peindre les icônes.
Oui.
Bon, effectivement, on utilise les pigments. Un lion et des pinceaux sur une surface plate ou pas. Et donc, effectivement, sculpture, c'est une icône aussi, mosaïque, etc. Enfin, voilà, que ce soit plate ou deux ou trois dimensions, ça reste le même parce que ça vient de mon grec en passage qui veut dire l'image.
Oui.
Voilà.
Donc vraiment, l'idée de représenter, de raconter également.
Bah, de raconter, écrire, en fait, c'est les orthodoxes, ils tiennent à ce terme, écrire les, ouais, icônes, écrire quand on écrit un texte. Pourquoi? Parce que, enfin, d'ailleurs, l'occidentaux, surtout l'occidentaux, après ce fameux, enfin, pour moi, très mauvais théologien Charlemagne, si ce n'était un, qui a, bon, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, donc, qui a essayé d'accuser en fait la Byzance pour une adoration, donc qui voyait pas la différence entre adoration et vénération, et c'est les deux mots clés.
Oui.
Donc adorer, on peut adorer que le Dieu seul, donc toutes les religions sont d'accord, et on peut vénérer également les icônes autant que représentation à la manière de, je suis en train de décrire, donc effectivement sans erroner le ou enfoncer ou partir dans une hérésie ou une autre, le Dieu ou les canons qui étaient décrites dès le début, depuis le peuple choisi, donc élu depuis Moïse, on appelle ça la loi de Moïse, qui interdisait entre le guillemets, mais bon, on ne partira pas dans ce schéma parce que
ouais,
c'est quand même vaste.
Ouais.
Je veux revenir et tâcher à répondre à votre question d'un point de vue technique tout d'abord. Voilà, donc la technique, c'est d'écrire les icônes, ça veut dire de décrire les saints. Donc ce n'est pas un portrait, on est bien d'accord. Disons Saint Basile le Grand, bah, c'est pas un des fondateurs des icônes tout à début, enfin à l'époque d'Arius, enfin ces conflits-là. Et donc, du coup, ce n'est pas un portrait, ce n'est pas une représentation historique telle que l'art profane, enfin, l'art donc, qu'on a autour des icônes. C'est une manière de... Si vous pouvez imaginer une fenêtre,
oui.
Vous êtes dans votre chambre, vous avez une fenêtre. En ouvrant cette fenêtre, au lieu de voir votre jardin habituel, peint par les impressionnistes, par exemple, cher en France, c'est le, plutôt, vous avez, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, donc, où la théologie est nécessaire pour y entrer dans un travail des icônes, enfin, l'iconographe, il doit être théologien. Enfin, c'est pas
c'est
obligatoire,
mieux.
Mais
oui.
ça sera mieux. Et donc, vous ouvrez sur quelque chose de invisible, ou yeux matériels. Donc, vous ouvrez plutôt vos yeux de vos cœurs. En fait, voilà, vous avez au tréfonds de vos cœurs pour en chercher une autre vérité, souvent plus vrai que celle qu'on comprend par la raison, quoi.
Mais voilà. C'est bien parce que ça nous permet vraiment de comprendre de quoi on parle. Donc on dit plutôt écrire une icône et non pas peindre une icône. Oui. Alors c'est vrai que ça peut surprendre, mais vous l'avez très bien expliqué. L'objectif de l'icône orthodoxe, c'est quoi? C'est finalement d'entrer dans une forme de dévotion religieuse et d'expression artistique en même temps. C'est un peu les deux en même temps, d'après vous, Pierre Zoran Petrel?
Oui, l'expression artistique, ce mot m'a accroché en premier. L'expression artistique, c'est, enfin, j'essaie d'en parler pour ma part, et puis en même temps de passer en trois gros traits à travers l'histoire. Expression artistique, c'est une création personnelle. Donc, c'est un individu qui a une image d'un sujet qu'il veut décrire d'une manière plastique telle ou telle, enfin, selon les techniques. Et non. En fait, une icône, je suis contre cette phrase, mais aujourd'hui, on appelle ça une icône orthodoxe. Non, l'icône, elle est pas orthodoxe, c'est une icône religieuse, c'est une icône chrétienne, on peut dire au mieux. Mais effectivement, elle n'est pas réservée aux orthodoxes.
Oui.
C'est seulement que les orthodoxes d'aujourd'hui perdurent dans cette tradition.
Oui.
Mais un peu plus que les autres, mais elle est quand même développée à l'Orient aussi bien qu'à l'Occident ou ailleurs. Voilà. Nous représentons de quelque chose bien ferme. Ça veut dire que un iconographe, il a des canons à respecter.
Canons.
Des canons théologiques, ça veut dire sept conciles écuméniques,
oui.
Par exemple. Donc, et puis les canons qu'ils étaient, les canons inspirés, bien entendu,
oui.
qu'ils étaient prononcés. Pendant ces conciles, sous le sujet divers, en fait, c'est le sujet qui touche plus l'icône elle-même. Enfin, c'est la nature de notre Seigneur, de Christ. Et donc, Dieu s'est fait homme. C'est aussi un terme pas, enfin, il faut pas comprendre mal, mais c'est justement dans le bon sens, c'est une suite de la loi de Moïse. Ça veut dire que du moment que le Dieu s'est fait homme, la loi de Moïse s'arrête pas, enfin, comme il dit le Seigneur lui-même, je suis pas venu pour abolir, mais d'accomplir. Donc, et effectivement, c'est vrai, même pas un iota ne manque au-delà, mais seulement que même Jésus, enfin, parenthèse, Jésus était représenté dans l'Ancien Testament également, donc de la loi de Moïse également. Donc on a les chérubins sur l'arche de l'Alliance, dans la tente. Nous avons les broderies sur les rideaux de la tente qui séparent le 7 degrés d'approchement, enfin, le...
Oui.
de divin, etc. Vous le savez mieux que moi, mais c'était un art figuratif, c'était une représentation indirecte. Oui. Ça veut dire on pouvait représenter tout ce qui est autour et qui concerne le dieu, mais pas le dieu lui-même. Voilà. Comme il dit, en fait, on a entendu que la voix, Moïse a entendu que la voix et vu les flammes. Donc, ça reste ainsi. Et puis, tout cela était strictement préservé d'une manière parce que le peuple se recherchait, il glissait souvent dans l'idolâtrie, comme il est revenu à le veau d'or qu'il attendait, etc. Donc là, à partir de là, donc, on a deux natures de Christ. Le Dieu s'est fait homme. Le Dieu s'est fait homme, comme vous et moi, comme nous tous. Donc, il a pris l'enveloppe charnelle, et puis, du moment, il s'est représenté. La première icône est lui-même.
Oui. Ça, pardon, je vous coupe la parole. C'est très intéressant. Alors, c'est un peu complexe, mais c'est bien aussi d'en parler. Ça veut dire qu'on ne peut pas représenter Dieu. On ne peut pas écrire Dieu dans les icônes.
Enfin, comme je viens de dire, en fait, oui. À partir de ce moment-là, à partir d'incarnation de Christ, on peut le représenter,
oui.
Parce qu'il s'est montré.
Oui. Mais donc, dans Jésus, alors.
Donc Jésus, voilà, donc on comprend, enfin, en tout cas nous les chrétiens, qu'on comprend en tant que Dieu incarné, donc le deuxième personnage de Sainte Trinité, enfin, je n'entrerai pas dans les détails parce que les autres religions, ils ne sont même pas concernés par la théologie trinitaire, bien entendu. Mais voilà, donc, en tout cas, pour s'adresser à tout le monde, le Dieu s'est fait homme. Donc, le Dieu s'est fait homme par l'amour, que tout le monde le sait. On ne va pas rentrer dans ce champ vaste, mais en fait, c'est pour rester accroché à votre question, c'est que à partir de ce moment-là, et tous les conciles se réfèrent dessus, petit à petit, enfin voilà, ça se développe, hein, c'est pourquoi on a eu 7 et pas... Imaginez une planche huilée qui est juste sur un pic et il est très difficile de trouver un équilibre, que cette planche reste raide. Oui. Donc c'est ça les hérésies en fait, tous ces savants, ils étaient c'était des érudits, mais quand même ils glissaient ou à gauche ou à droite, ils avaient du mal à se positionner au milieu à cause de la philosophie antique, à cause de d'autres raisons, ça dépend de la région et venait, etc. Et donc on était obligé de fixer les règles, c'est-à-dire les canons, par les conciles, et puis l'iconographe se tient à ces règles. Ces règles sont c'est pas quelque chose d'ultra strict, c'est quelque chose à quoi on se tient pour savoir de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait.
On va continuer d'en parler avec vous, Pierre Zoran Petrel. Dans un instant, nous rejoindra notre deuxième invitée, Elena Bécard. Elle est artiste, céramiste et iconographe. Elle est catholique, elle est fondatrice de l'atelier Ciel sur Terre. Elle est bloquée dans les bouchons actuellement du côté de Lille. Et promis, elle va nous rejoindre dans un instant. Le temps d'accueillir Michel au Mans. Bonjour Michel.
Oui, bonjour, je vous remercie. Vous avez demandé au départ de l'émission une définition claire de l'icône. Moi, je dirais que pour moi, l'icône, c'est d'abord et avant tout, enfin, c'est pas que pour moi, c'est pour tous les orthodoxes, c'est avant tout un discours théologique en images qui s'appuie et qui confirme le dogme de l'incarnation. Et je voudrais souligner qu'il y a un lien étroit avec la vie liturgique, puisque au moment des fêtes, par exemple, les icônes des fêtes reprennent, illustrent les textes des tropaires, c'est-à-dire de l'ancienne, qui définit le sens de la fête. Donc il y a une grande cohérence liturgique entre l'icône et les textes de la liturgie. Bon, bien entendu, la théologie, comme l'a dit votre invité, c'est celle de l'incarnation. Hein. On se souvient de Saint Jean, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, on en atteste. Et comme le soulignaient les pères iconodules, donc Saint Jean Damascène et les autres qui ont défendu l'icône au moment de la crise iconoclaste, bien entendu, il y avait le fait que le Christ n'a pas demandé à ce qu'on écrive sa vie. Or, évidemment, tout le monde reconnaît les évangiles, et de même, on peut représenter dans la mesure où il s'est incarné, il s'est donné un corps, une image. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, deuxième petit point que je voulais souligner, c'est l'usage assez brouillon qui est fait actuellement des icônes dans le monde occidental. Comme vous le savez, les ateliers se multiplient à tous les
coins
de rue.
Oui, absolument. Et ça, on va en parler.
Et ça consiste à prendre en général des détails plaisants sur les icônes, sans prendre la théologie qui va avec, ce qui donne des aberrations. Souvent.
Voilà. Merci,
je
Michel.
Je voulais le dire et bravo pour votre émission.
Merci beaucoup, Michel. C'est gentil d'avoir pris le temps de témoigner. Surtout que vous connaissez bien le sujet. Et je vous ai vu, Pierre Zoran Petrel, écouter avec attention également ce témoignage. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une vraie cohérence liturgique entre l'icône et les textes. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Ça, vous l'avez bien rappelé.
Oui, bien entendu. En fait, c'est la théologie en image, comme la dame vient de dire. En fait, c'est tout à fait exact. Et c'est compréhensible. Puisque, d'ailleurs, on va dire... Le point le plus basique, utilité des icônes, disons pour les gens qui sont vraiment très peu pieux, j'aimerais pas m'exprimer mal, mais les gens qui sont un peu sous le bord, qui sont pas très appliqués, etc., qui sont en train de venir, donc c'est tout d'abord, à l'époque c'était pour les illettrés, et d'ailleurs iconoclastes, ceux qui voulaient arrêter sous l'influence d'islam qui avançait, qui voulaient
c'était les partisans des empereurs byzantins qui à l'époque s'opposèrent vraiment à l'adoration et au culte des images d'ailleurs.
C'est exactement, mais en fait, c'était iconoclastes. En fait, sont apparus autant que, la Byzance politiquement et militairement va perdre le terrain, en gros, devant l'armée islamique. Et du coup, il se disait que c'est une pure superstition, si vous voulez, en fait, qui s'est intruit au sein de Byzance. En fait, peut-être ils ont raison parce que ils vénèrent rien du tout. En fait, ils sont très stricts ou un dieu. Enfin, ils croient dans un dieu complètement transcendant qui ne laisse pas paraître très strict, etc. Donc du coup, peut-être qu'ils ont raison, essayons de faire comme eux, peut-être ça marchera mieux pour nous. Enfin, c'est une pure superstition qui s'est emparée des empereurs, pas un, mais plusieurs, de cette époque. Et donc du coup, le problème est venu de là. Mais après, même ces gens-là, ils toléraient les images, ce qui apportent sur le mur, en l'interdisant de le vénérer, de les embrasser, de le toucher, mais uniquement de lire pour les illettrés, parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de gens analphabètes que les gens qui étaient érudits. Donc du coup, ça le permettrait de suivre en fait en image ce qui était dit ou ce qui était écrit. Voilà.
Il est 10h18 dans Je pense donc j'agis, vous l'entendez ce matin, on vous propose de découvrir l'art de l'iconographie qui est très présente dans l'église orthodoxe. On le fait avec nos invités et vos témoignages, tout comme Michel qui est venu à l'antenne il y a quelques instants. Si vous êtes orthodoxe, en quoi c'est important pour vous l'iconographie? Est-ce que ça joue pour votre foi? Et la question est ouverte bien sûr à tout le monde. Est-ce que vous aimez regarder des icônes? Qu'est-ce que ça vous apporte? 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec Pierre Zoran Petrel, je rappelle que vous êtes diacre orthodoxe au sein de l'église Notre-Dame Souveraine et Saint-Silouane, c'est à Chaville dans les Hauts-de-Seine, et vous êtes aussi artiste, plasticien, iconographe et théologien. Je vous présente Elena Bécard qui vient de nous rejoindre. Bonjour Elena. Ah, on vous a pas entendu Elena, je ne sais pas si votre micro est monté, est-ce que vous êtes là? Alors, je sais que vous êtes en studio, que vous parlez, mais j'ai l'impression juste qu'on n'entend pas votre voix pour le moment. Alors, je vais retenter. Est-ce que vous êtes là, Elena?
Oui.
Oui, il y a un problème de Ouais, il y a un problème de micro, on va vous entendre. Elena, vous êtes artiste céramiste et iconographe. Vous avez également fondé un atelier qui s'appelle Ciel sur Terre. Je précise que vous êtes orthodoxe par votre baptême, mais que vous pratiquez votre foi chez les catholiques. Est-ce que vous nous avez rejoint, Elena ? Alors.
Vas-y. Bonjour.
Bonjour, Elena. Ça y est. On entend votre voix. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous étiez bloqué dans les bouchons. J'espère que vous êtes bien installé. Alors j'aimerais qu'on parle de votre parcours, puisque vous avez commencé, enfin en tout cas vous vous êtes plongé, on va dire, dans le monde artistique à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous ?
Alors, qu'est-ce que s'est passé à l'âge de 17 ans, je suis arrivée en Angleterre, à Oxford, pour faire mes études. Mais comme je ne parlais pas très très bien anglais, j'ai commencé à dessiner. Et ça, c'est le début de mon parcours. Mais ce qui s'est passé vraiment plus tard, c'est ça qui est plus important. C'est que j'ai vécu une conversion, parce que j'étais athée, je suis née et grandie dans un pays athée où la religion était interdite. Et j'ai vécu ma conversion à Lille, en France, pendant mon parcours alpha pour la préparation à mon mariage.
Oui.
Et ça, c'était le début de mon cheminement vers sur le chemin de la foi et vers l'iconographie.
C'est votre foi qui vous a vraiment guidée vers l'iconographie?
Oui, absolument, oui. Petit à petit, Seigneur m'a guidée vers l'iconographie. Un jour, après ma conversion bouleversante, entourée par les catholiques. Et moi, je suis en fait orthodoxe par le baptême.
Oui, c'est ce que j'ai dit, mais pendant que vous étiez en train de changer de micro. Voilà.
Pardon. Et donc un jour, j'ai vu un magazine de National Geographic où c'était marqué Jérusalem là où Jésus a marché sur les rues de Jérusalem. Je me suis dit waouh, c'est comme une révélation. Et il a vraiment marché sur cette terre pour moi, parce que j'avais zéro culture chrétienne. Et je me suis dit, mais à quoi il ressemblait vraiment? Est-ce qu'il ressemblait vraiment à ces images qu'on voit sur les icônes? Et je commençais à gribouiller, à dessiner le visage de Jésus sur un bout de papier. Et le lendemain, une collègue qui me ramène un livre qui s'appelle Le visage de Dieu. Et petit à petit, c'était le chemin qui m'amenait vers l'iconographie. Au début, je pensais que je n'étais pas digne d'écrire des icônes, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que tu es en lien direct avec le ciel. Iconographe, c'est comme un pont entre le ciel et la terre. Et une icône, c'est vraiment une fenêtre vers le ciel. Et il y a une vraie présence. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le ressentent. Et c'est comme une vraie rencontre. Et ce n'est pas juste une œuvre d'art, c'est vraiment l'art sacré.
Oui.
Ouais,
mais ça, c'est intéressant. Je me tourne vers vous, Pierre Zoran Petrel. Vous, c'était à l'âge de 12 ans, je crois, que vous êtes vraiment tombé dans le monde de l'art. Qu'est-ce qui vous a guidé jusqu'à devenir un peu plus tard, et c'est le cas actuellement, mais artiste plasticien et donc iconographe? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Est-ce qu'il y a eu un déclic un jour?
Voilà, bon, bah, ouais, vous avez touché au très fond. Alors, donc, effectivement, à l'âge de 12 ans, je suis entré dans une école de dessin traditionnelle, classique. Donc, voilà, c'était à Belgrade, ma ville de naissance, capitale de Serbie, aujourd'hui Yougoslavie à l'époque. Et donc, du coup, c'est ma maîtresse de dessin, enfin, l'école, qui m'a emmené. C'était son professeur, elle a fait les études entre les temps, etc. Et du coup, ça commençait par là. Alors, j'étais touché par l'art plastique. Je suis issu d'une famille athée, d'un pays athée. Et donc, du coup, j'avais aucune connaissance. Ni infinité vers la religion quelconque, ni chrétienisme, ni aucune autre. Donc voilà, évoluer comme ça, j'ai passé par 36 schémas On appelle ça dans le milieu chrétien, en tout cas orthodoxe, je pense catholique aussi, le chercheur de Dieu. En fait, c'est les gens qui, sans savoir, le cherchent par les événements qui les arrivent dans, en cours de leur parcours dans leur vie.
Oui.
Et effectivement, moi, c'était à travers de l'art plastique. Enfin, j'évoluais, je me préparais pour les beaux-arts. Entre le temps, j'étais très, très touché par les écrits. Donc, j'ai fait une école préparatoire de lettres à départ en décidant finalement de faire la philo. Donc, quand je dis la philo, donc c'est la philo par laquelle j'étais impressionné. Et puis, bon, c'est à l'opposé un peu de christianisme. Je parle de Schopenhauer, de Nietzsche, en partant de Kant, Hegel, etc.
Oui.
Donc, je parle des Allemands. Et du coup, j'ai perduré dans cette voie. Enfin, enfant des parents divorcés, donc je me baladais entre Paris et Belgrade sans cesse parce que ma mère était ici et puis mon père là-bas. Voilà, donc garde partagée, donc appris de deux cultures. Surtout, la première culture, entre guillemets, c'était le rock'n'roll des années 80.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Alors,
ouais.
Évoluer dans le milieu parisien dans ce sens, donc plus dans le punk, enfin, ce genre de mouvement, complètement, enfin, anarchique plus qu'autre chose, point de vue musical plaisante. Et à un moment donné, il a un peu comme Hélène, en fait. Donc, j'ai eu un ras-le-bol, un assez dans mon atelier, en train de peindre, une espèce de burn-out, si je peux dire ainsi, où je suis resté un peu scotché pendant, je ne me rends pas compte combien de temps, mais en tout cas, jour et nuit sont échangés plusieurs fois. Et voilà, sans sortir dehors. Et puis, en sortant de là, je suis allé à l'église parce que ma mère, elle était pieuse, donc aller à l'église que fréquentait ma mère, et puis commencer à écouter, sans participer en fait, de rester dans un coin, d'écouter, de suivre la liturgie, sans rien comprendre, d'assister physiquement, mais d'absorber en fait comme une éponge sèche. Voilà, toutes les gouttes qui tombent dessus. Et puis, ça m'a fait un plus grand bien. Donc, je commençais en même temps d'orienter mon art plastique dans ce sens, d'être curieux, parce que je suis surtout quelqu'un de visuel. Et puis, ma curiosité, elle est avant tout visuelle. Et donc, du coup, la preuve, j'ai toujours été peintre figuratif. J'ai jamais osé de m'aventurer dans une quelconque abstraction, etc. Donc du coup, je cherchais d'autres formes figuratives, et puis celle-ci, je comprenais par le modèle de l'art plastique, tel qu'il m'était enseigné, et puis tel que j'ai appris encore de ma vie. Mais non, effectivement, petit à petit, j'ai commencé de me renseigner auprès de personnes qualifiées, qui m'ont expliqué qu'il y a des canons, mais qu'est-ce que les canons, etc. Et le plus grand, je dois remercier à Père Jivko Panev, donc c'est le prêtre de ma paroisse, qui m'a instruit de A à Z en quelques dizaines d'années, enfin une dizaine d'années plutôt, grâce à lui que je me suis inscrit en Saint-Serge, donc reçu une instruction théologique nécessaire, etc.
Et
j'en suis là.
Eh ben, on va continuer d'en parler dans un instant. On va marquer une petite pause. On vous retrouve juste après ça, Elena Bécard et Pierre Zoran Petrel. Vous continuez également de nous appeler pour nous parler de l'art de l'iconographie avec vos témoignages, vos réactions au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et pour découvrir l'iconographie jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Pierre Zoran Petrel, je rappelle que vous êtes diacre orthodoxe, vous êtes aussi artiste plasticien, iconographe et théologien. Et puis Elena Bécard nous accompagne, artiste céramiste et iconographe. Vous êtes la fondatrice de l'atelier Ciel sur Terre. Est-ce que le témoignage de Pierre Zoran, qui a découvert petit à petit l'art de l'iconographie, ça a fait un peu écho à vous, là, la manière dont vous avez découvert cet art particulier, extrêmement codifié, extrêmement réglementé?
Bien sûr, il y a bien des parallèles entre nos chemins de vie, je pense. Vivre la conversion et vers les chemins vers l'iconographie, parce que c'est l'art sacré le plus strict, et c'est vraiment très très encadré. Et oui, j'ai bien vu que nous avons un petit peu vécu le même chemin de nos côtés.
Et comment vous avez appris justement l'art de l'iconographie? Comment on apprend à respecter les règles d'écriture d'icônes?
Moi, j'ai commencé par un stage dans un atelier à Lille. Et puis ça, c'était vraiment une vraie révélation parce que, en fait, depuis ma conversion en 2008, j'ai attendu un appel de Dieu. Et quand j'ai suivi ce stage de d'iconographie, je me suis dit, c'est ça en fait. L'appel, on ne peut pas le louper parce que c'était tellement fort. Je ne peux pas le nier et je dois le suivre. C'était vraiment un appel de Dieu d'écrire des icônes. Et je commençais de fréquenter cet atelier. Et ensuite, j'ai fait une formation dans une école d'iconographie de 4 ans. Voilà, donc avec 7-8 matières, avec la théologie, le slavon, le grec, etc.
Pierre Zoran Petrel, tout à l'heure, Elena nous disait l'iconographie, c'est une forme de pont entre le ciel et la terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Tout à fait, oui.
Oui.
D'ailleurs, je tiens à y rajouter pour renforcer cette phrase, c'est que une petite description, donc il y a beaucoup de gens, surtout à l'Occident, en fait, en voyant perspective inversée, c'est pas tout à fait une perspective inversée, mais appelons-la comme ça, pour faciliter la tâche, donc une perspective inversée, qui n'est pas la seule dans une icône, attention, il y a d'autres perspectives, il y a la perspective axiométrique également, et puis la plus importante, la perspective thématique, ça veut dire que dans une icône, c'est le Dieu, imaginez une pyramide inversée, disons qu'une... Et donc, dans cette pyramide inversée, le spectateur est y compris dans l'icône, ce qui n'est pas le cas dans aucune autre forme d'art plastique. C'est de où cette perspective, disons, inversée, qui comprend le spectateur en même temps, quel que soit, c'est pas exactement précis au centre, à gauche, à droite, c'est juste une question de comprendre, de faire participer à cette fenêtre ouverte vers le ciel, vers les cieux, donc de participer à celui qui regarde, qui admire, qui vénère, qui est là devant, physiquement, et qui puisse entrer spirituellement dans ce monde qui est réel. D'ailleurs, pour moi maintenant, beaucoup plus réel qu'est-ce que la réalité. Bon, après, la raison s'arrête. Même pour les gens les plus savants, la raison s'arrête là où la matière s'arrête. La réalité, c'est quelque chose qui s'empare de la vérité. La vérité, c'est quoi? La question est mauvaise. C'est pas quoi, c'est qui. La vérité est le Christ. Donc, pour nous les chrétiens, pour moi en tout cas, la vérité, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose. Donc du coup, c'est pas un chemin, c'est pas un dessin, c'est pas... quelque chose facile à atteindre par la raison, c'est quelque chose qui est au-delà de tout ça. Et puis le seul moyen, parce que le Dieu a donné tous les moyens pour qu'on puisse, comme dit Hélène, former ce pont. C'est lui qui l'a formé d'ailleurs avec sa création. Donc du coup, ce pont vient de haut tout d'abord, et puis nous touche directement par la foi. Nous, pour y pouvoir communiquer, on nécessite la foi. C'est la chose qui différencie la philosophie et la théologie d'ailleurs.
Voilà. Pascal, vous êtes à Versailles et on vous écoute. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis très touchée de cette émission sur l'icône.
Oui, il faudrait couper votre radio derrière, Pascal, si ça ne vous dérange pas.
Voilà. Cette émission sur l'icône, puisque j'ai la joie de travailler moi-même l'art de l'icône, ayant été initiée à Versailles dans l'atelier du père Igor, qui est ce père jésuite qui a commencé à enseigner l'art de l'icône à partir de 1959 en France, et qui a beaucoup travaillé à travers cela, à l'Union des Églises en France. Il a donc créé l'atelier Saint-Georges à Meudon, où l'art de l'icône est toujours enseigné, bien sûr. Il a d'autres élèves qui continuent aussi, notamment à Versailles, à Fondation, à enseigner l'art de l'icône. Il a écrit plusieurs livres magnifiques, dont l'icône Image de l'invisible, et puis Icône byzantine de la Mère de Dieu, et Le secret de la ligne, pour citer ceux que je connais le mieux. Et son travail est vraiment remarquable et important. Moi, je témoigne en tant que catholique, mais j'ai toujours été très proche des orthodoxes depuis mon enfance, puisque j'ai eu l'occasion d'aller souvent chez les orthodoxes lorsque j'étais enfant.
Oui.
Et je trouve très important d'en parler. On dit d'ailleurs écrire une icône.
Oui, on l'a dit ça. Oui, oui.
Voilà, pour oui. bien indiquer qu'elle témoigne de la parole de Dieu et qu'elle en est donc l'expression. Voilà.
Ouais, et ben écoutez, merci beaucoup Pascal d'avoir témoigné au 04 72 38 20 23. Elena Bécard, il y a de plus en plus d'ateliers, on l'a dit tout à l'heure, qui proposent de découvrir l'art de l'iconographie. Vous, à quel moment vous avez vraiment souhaité transmettre ce que vous avez appris à travers l'atelier Ciel sur Terre ?
À un moment donné, ce n'est plus possible. Le décart entre ma vie à l'intérieur et mon travail, c'était trop important.
Oui.
Et c'était juste une évidence que je devais créer cet atelier. Mais c'est un atelier d'iconographie d'art sacré, mais aussi de la céramique. Car pendant ma conversion, j'étais entourée par les catholiques qui chantaient cette chanson. Comme un soufflet fragile à ta parole se donne, comme un vase d'argile à ton amour nous façonne. Et comme moi, j'ai vu une grande transformation dans ma vie, je me suis dit, je veux sentir à l'argile comment son amour nous façonne. Mmh. Et quand j'ai touché l'argile, c'était une autre révélation. Je me suis dit qu'on peut peut-être mettre les images du ciel sur terre. Donc littéralement, faire des icônes en argile. Et donc, je partage ma passion pour la céramique et pour l'iconographie dans mon atelier. Et je suis épanouie et comblée.
Oui. Pierre Zoran Petrel, tout à l'heure, vous savez, l'auditrice Michel qui est venue à l'antenne nous disait qu'il y avait de plus en plus d'ateliers et elle dénonçait un peu ça. Elle disait qu'il y avait de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'on peut être aussi réducteur ? Ou alors, c'est quand même bien pour faire découvrir cet art à des personnes qui peut-être n'ont jamais été sensibilisées à ça.
Le Seigneur a dit soyez rusés comme le serpent et puis ayez un cœur de colombe. Donc c'est difficile à imposer. En fait, les gens, s'ils ouvrent les ateliers, s'ils font quelque chose un peu de différent même, un peu plus artistique à leur sens, qu'ils essayent de faire... l'art d'icône a une évolution quand même. Elle n'est
oui.
pas figée. C'est pas quelque chose de figé à l'image de Christ qui imprégnait lui-même. Ça a évolué depuis. Donc,
mais en quoi ça a évolué, justement ?
En point de vue technique.
Oui.
En point de vue technique, en fait, l'important, c'est que il y a pas, ça a évolué de point de vue théologique également. Ça s'est ouvert beaucoup plus et puis c'est devenu beaucoup plus compréhensible. Enfin, mieux compréhensible, pour ainsi dire. Mais surtout techniquement, ça a évolué. Je donnerai un exemple directement à l'opposé de premières icônes. C'est, ou plutôt, retour aux premières icônes. C'est un ami de jeunesse, d'enfance, Todor Mitrovic à Belgrade. C'est le professeur à l'Académie des icônes à Belgrade. De patriarcat de serbe. Du coup, c'est un, si vous voulez, pour faire une parallèle en plus vite, c'est le Van Gogh parmi les iconographes.
Oui.
Vous voyez quelque chose, sauf que lui, je pense qu'il a reçu une compréhension de la part de public pendant son vivant, à la différence de Malheur de Van Gogh, qui était également un théologien au départ, il faut pas oublier non plus. Il a fait les études de théologie, c'est comme ça qu'il a commencé, ouais. Van Gogh. Donc du coup, Théodore, enfin pour faciliter au français, a fait quelque chose en faisant comme moi, d'abord les études de l'art plastique, etc., puis conversion en iconographie, etc., où il a percé, il a fait quelque chose de fabuleux. J'admire beaucoup son art, et c'est un art complètement évolutif, complètement ouais. révolutionnaire. Beaucoup de gens n'ont pas envie de mettre ça dans leur église. Je comprends aussi ce point de vue, tous ceux qui sont traditionalistes, etc., qui sont un peu sévères, qui sont un peu zélotes. Mais théologiquement parlant, ces icônes sont absolument parfaites, si on peut ainsi dire. Et techniquement, c'est quand même une joie. C'est oui. quelque chose qui nous procure une joie, aussi bien que la Sainte Trinité de Roublev, par exemple, qu'on est devant. Oui. Il n'y a pas de différence. Et c'est ça le but, parce que le Dieu est amour. Il ne faut jamais oublier cela.
Donc techniquement, voilà. C'est devenu quelque chose de très abouti, comme vous le dites. Elena Bécard, ce qui m'a frappé également dans le témoignage de Pascal au 04 72 38 20 23, elle est catholique et elle se permet de découvrir vraiment l'art de l'iconographie. Est-ce que les catholiques se mettent aussi à écrire des icônes? Parce que j'ai l'impression que c'est presque une nouvelle tendance. Il y a énormément de couvents, il y a quelques couvents en France de sœurs qui proposent des cours. Il y a des ateliers ici et là qui sont ouverts vraiment à tout le monde. Mais est-ce que les catholiques se lancent un peu plus dans les icônes qu'avant, d'après vous, Elena?
Je ne sais pas si c'est un peu plus maintenant qu'avant, mais pour moi, personnellement, iconographie, c'est le chemin de salut. Et si les gens se sentent appelés d'écrire des icônes, pour moi, vous êtes peut-être amené que par l'esprit de décrire les icônes. C'est pas juste la folie qui passe par la tête que de dire tiens, je veux faire une icône. Donc moi, je peux pas porter un jugement sur quelqu'un qui va dire ah bah j'ai envie de faire une image de Dieu. Moi, je dis qu'il faut un discernement, il faut un temps pour examiner son cœur. Et puis, c'est un chemin de salut. Pendant qu'on écrit une icône, on prie, on jeûne, on chemine. Donc, même si notre œuvre, elle n'est pas parfaite, ça nous a apporté plus proche, plus près de Dieu. Je pense que ça, on peut pas le nier. Ouais. C'est quelque chose de très, très profond.
Que vous arrivez à expliquer?
On peut pas le comprendre oui. par l'intelligence. Ça se comprend pas par le cœur et par le. Ça se vit. Mmh. Et quand nous avons fini une icône et on la regarde, moi je sais que c'est pas moi qui l'a faite.
Ah oui.
Ce sont peut-être mes mains, mais je suis comme un outil qui transmet.
Donc quelque chose vous a guidé vraiment dans l'écriture.
C'est ce que je ressens, oui. Oui.
C'est fort hein, d'entendre ça. Je trouve ça très très beau. Pierre Zoran Petrel, est-ce que vous ressentez peut-être un peu la même chose?
Oui, par moment, mais après, le problème, vous savez, Nietzsche aussi, il était inspiré en écrivant Zarathoustra. Donc, il faut se méfier des fois de l'esprit. Aucun rapport avec ce que vous venez de dire, ça c'est honorable. Et je suis tout à fait d'accord avec Hélène. Mais je veux donner en parallèle juste une autre possibilité de dérapage. Par exemple, l'esprit peut être tel ou tel. L'esprit peut être celui-ci qui a fait échouer le dessein de Dieu en partie et fait tomber l'humanité, donc Adam et Ève, disons comme ça, premier homme et femme. C'est exactement le même, d'après moi, qui a dicté le Zarathoustra dans les oreilles de Nietzsche. Mmh. dans les forêts de Suisse, là où il habitait, à ce moment-là. Et puis voilà, donc du coup, pour répondre directement, c'est oui. Alors, en sachant que je suis pas iconographe classique, j'ai pas fait une école d'icônes, j'ai pas suivi un maître comme par exemple, oui, en partie, enfin, j'ai eu un enseignant, c'est quelqu'un qui m'enseignait à l'Institut Saint-Serge, en fait, l'iconographie, c'était un examen. Voilà, donc lui-même était élève d'un iconographe célèbre qui était professeur avant lui d'iconologie, et que celui-ci était élève de Leonid Uspensky, plutôt ami et élève de Leonid Uspensky. Mmh. Et Uspensky, tout le monde a entendu parler. Donc du coup, effectivement, enfin George Krug, Uspensky, et tous ces cercles de peintres qui ont d'ailleurs, en passage, eu à peu près le même parcours comme Hélène et moi à leur époque. Ça veut dire ils étaient tous dans l'armée rouge, basculés d'une manière ou d'une autre à l'armée blanche, et puis ensuite
un petit aller
blanc par le petit cheminement et 36 000 métiers. Il faut savoir qu'il était forgeron, qu'il était nettoyeur, qu'il était mineur, qu'il était tout. Il a fait tous les métiers possibles imaginables. Bosser dans les carrières, creuser les trous pour les poteaux, enfin voilà quoi. Mmh. Donc c'est la vie nous réserve des surprises, mais c'est, je comprends ces surprises, quelles que soient leurs difficultés, autant que une chance de la part de Dieu, comme dit Hélène, qui nous oublie jamais, qui frappe sans cesse à la porte de nos cœurs, et puis qui attend qu'on ouvre enfin, pour qu'il puisse y entrer et y habiter, qu'il fasse de nous cette vase de céramique qu'il a fait lui, qu'il a potelé lui-même, comme Hélène le fait également, à l'image de Seigneur. Donc du coup, c'est effectivement, j'oserais pas de me déclarer inspiré pendant que je travaille. Mais en tout cas, j'ai une autre habitude, voilà, ce chapelet.
C'est le chapelet que vous avez entre les mains également.
Ça fait une dizaine d'années qu'un moine atonite me l'a pris, la prière de Jésus. Puis depuis, je n'ai jamais cessé de le tourner, avec ou sans chapelet.
Il est un peu plus de 10h45 dans Je pense donc j'agis. On va continuer cette émission jusqu'à 11h avec vous deux, Elena Bécard et Pierre Zoran Petrel. Également avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. Je vais vous proposer d'entendre de la musique. Alors une fois n'est pas coutume, sans parole, uniquement du piano, ou plutôt des pianos à quatre mains avec Sofiane Pamard, le pianiste, et puis le pilote de Formule 1, oui, Charles Leclerc, qui est également pianiste. On écoute. Focus. C'était Sofiane Pamart et Charles Leclerc sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec Pierre Zoran Petrel, vous êtes diacre orthodoxe et artiste plasticien, iconographe et théologien. Et Léna Bécard, artiste céramiste et iconographe, fondatrice d'un atelier qui s'appelle Ciel sur Terre. Léna, comment on choisit ce qu'on va écrire lorsque vous décidez de créer une nouvelle icône?
Pour moi, ça doit me parler, ça oui. doit m'appeler. Cette image doit me toucher au plus profond de mon cœur. Et puis, moi, quand je parle de l'esprit qui nous guide, c'est vraiment dans le cadre d'une écriture une icône traditionnelle en suivant tous les canons. Donc, je pense que c'est difficile de faire un écart et d'être miné par un esprit. C'est lui qui a chuté Adam et Ève. Quand on est vraiment encadré et également nous sommes accompagnés par la prière quand on écrit une icône. Mais je propose également des ateliers de argile ou art et prière où on peut fabriquer, comme nous avons parlé du chapelet. On peut fabriquer son propre chapelet tout en récitant un chapelet, par exemple, ou la prière de Jésus. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait aussi cette belle découverte il y a quelques années. Et cette prière ne me quitte jamais. Mmh. Elle est toujours avec moi.
Oui.
Oui. Donc, et on peut aussi créer sa propre croix tout en priant. Et également, on peut faire une attitude de gratitude et créer son annexe voto.
Alors, j'avais une question à vous poser à tous les deux. Léna, je commence avec vous. Est-ce que vous priez avant
Bien sûr.
Oui, ah bah, oui.
Oui, ça c'est le canon. Il faut prier. Alors, on commence par la prière, bien sûr.
Oui. Pierre Zoran, vous aussi. Enfin,
oui,
vous avez toujours votre chapelet.
Comme le gémin occupé, enfin le chapelet, il est intérieur. Donc, mis à part ça, en fait, on a vraiment une prière, plusieurs prières canoniques avant de commencer une icône, quelle que soit. C'est-à-dire, donc, on a la prière à Saint-Luc, donc le patron des iconographes. Avant cela, on a le symbole de la foi. Donc, on a une régie canonique à faire. Donc, on peut de pas la faire, mais je conseille de la faire parce que bon, si les saints-pères ont insisté dessus, c'est pas pour rien et c'est vraiment pas pour rien. Mmh. Donc déjà d'une, ça montre, ça calme notre ego, ça montre que pour le Dieu on le fait, que ça montre que pour le prochain on le fait, puis pour le Dieu à travers de celui-ci. Et voilà, donc effectivement, et puis ensuite la prière de saint ou sainte de qui nous voulons essayer de faire l'image, donc voilà, et puis essayer de rayonner soit les commanditeurs, soit tout le monde à travers de son icône de Dieu lui-même, quoi. Voilà, donc.
Béatrice, bonjour. Vous êtes à l'antenne.
Oui. Alors moi, j'avais une question à poser. C'est de savoir si on pouvait inclure donc dans les icônes la représentation des anges faite dans le monde oriental, enfin dans le monde orthodoxe.
Mmh. Eh ben, c'est une bonne question, Béatrice, et je vous remercie beaucoup de l'avoir posée. Léna Bécard, est-ce que les canons valident est-ce que on peut représenter
des
anges dans les icônes?
Tout à fait. Oui. Et ils sont dans l'iconographie classique canonique, les anges sont représentés, bien sûr.
Voilà. Écoutez, c'était une question simple, réponse très simple. Est-ce que vous avez l'habitude, vous, de représenter les anges, Léna?
J'ai l'habitude. Oui. Ça c'était une de mes premières icônes. Des icônes de sainte, de l'archange Gabriel, l'archange Saint-Michel.
Oui. Marie est très représentée dans les icônes. C'est-à-dire que même quand on tape dans un moteur de recherche icône orthodoxe, il y a énormément de résultats de recherche où on voit Marie avec l'enfant.
Oui, bien sûr. Bah, c'est pour affirmer la sainteté de Marie et son rôle important dans la foi chrétienne. C'est la mère de Dieu, évidemment. Mmh.
C'est un réflexe d'écrire Marie.
Un réflexe ?
Un réflexe ou une habitude, en tout cas, chez les iconographes ?
Peut-être, mais c'est notre maman du ciel. Et oui. Son image, elle est vraiment une image clé dans l'iconographie orthodoxe. Mmh. Elle est représentée énormément, beaucoup, dans toutes les églises orthodoxes.
Oui. Pierre Zoran, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Marie ? En un mot, puisqu'on arrive à la fin de l'émission.
D'accord. Bah, Mère de Dieu, c'est pas uniquement une mère, c'est pas uniquement une femme. C'est l'est, bien entendu. C'est ce qu'elle est, d'ailleurs. Mais elle représente l'humanité. C'est très important. Avant qu'elle soit une femme, avant qu'elle soit une mère, elle représente l'humanité. Le Dieu s'incarnait dans la meilleure de l'humanité. Donc, unité, pluralité. Et donc cette unité, c'est celle qui était digne de représenter toute l'humanité et que le Dieu s'incarne pas sans gré. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Pierre Zoran Petrel, merci à l'équipe de Radio Notre-Dame également qui vous accueille en studio. Je rappelle que vous êtes diacre orthodoxe au sein de l'église Notre-Dame Souveraine et Saint-Silouane à Chaville, c'est dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes aussi artiste plasticien, iconographe et théologien. On peut retrouver vos travaux, vos très beaux travaux, sur le site pierrepetrel.net, hein, c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple pour vous retrouver. Merci Léna Bécard également pour votre participation. Je rappelle que vous êtes artiste, céramiste et iconographe, fondatrice de l'atelier Ciel sur Terre et rendez-vous sur le site ciel-sur-terre.com pour retrouver beaucoup plus d'informations. Merci à tous les deux, merci à Hugo, Baptiste et Catherine à la réalisation. J'espère que ma voix ira mieux demain, j'en suis désolé, hein, c'est comme ça. Je fais au mieux pour vous accompagner. En tout cas, demain, ce qui est prévu, c'est de revenir 4 ans après le confinement. Qu'est-ce que le Covid a changé dans nos vies ? On parlera aussi du télétravail. Vous pouvez réagir dès maintenant dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. À demain.